Bonjour David, bonjour à tous. Grave illustration des hôpitaux en tension. Un petit garçon du Thouarsais gravement blessé a dû attendre plusieurs heures avant qu'un hôpital puisse le prendre en charge. Les élections législatives avec un retour sur le débat d'hier soir sur Colline entre Juliette Voilaise et Jean-Marie Fievé, les finalistes de la troisième circonscription. Vous entendrez aussi l'analyse du politologue poitevin Dominique Breillat sur le duel dans la première circonscription entre Bastien Marchive et François Charron. Un peu plus d'un an après avoir repris SMM, Denis Papin avait convié les élus lundi matin pour une petite visite des ateliers et pour faire le point sur l'actualité de l'entreprise Nueil-Aubraise. À Thouars, le festival des arts osés aura lieu les 24 et 25 juin avec de superbes affiches au programme. Et puis, dans l'actualité sportive, la basketteuse Beata Bandreau du Réveil Bressuré a mis un terme à une belle carrière le week-end dernier. Quant à la météo, il va faire très chaud cet après-midi. Près de Thouars, l'illustration donc du grave malaise du système hospitalier français. Luca, un garçonnet de 4 ans dont un pied avait été déchiqueté par une tondeuse samedi en fin de matinée au hameau de Régnier, à Mauzé-Thouarsais, a dû patienter des heures interminables avant d'être admis dans un CHU pour y être opéré. Dans un premier temps, comme relaté par nos confrères de l'ANR, la chaîne des secours avait bien fonctionné dès l'alerte donnée par la maman qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Mais c'est ensuite que le système s'est brutalement grippé, montrant ainsi toutes ses limites, car le médecin du SAMU ne parvenait pas à trouver un hôpital pour accueillir Luca en urgence, que ce soit à Angers, Poitiers, Tours, Nantes et même Paris, à l'hôpital Necker. Le salut est venu au dernier moment, comme l'explique le maire de Thouars, Bernard Pénaud, témoin des difficultés d'orientation du petit blessé. Il est au micro colline de notre correspondant en Thouars, c'est Dominique Hérault.
Je trouve scandaleux, enfin, il n'y a pas de mots, le risque qui est pris quand on ne peut pas trouver un endroit pour sauver le membre d'un enfant, alors qu'il existe des centres spécialisés qui soit sont fermés, soit ne peuvent pas accueillir sur toute la France. Le SAMU et les pompiers ont magnifiquement fait leur travail, moi je suis allé sur place, hein. Il a été pris en charge, et enfin, Angers a accepté de prendre l'enfant, mais il est arrivé à Angers 5 heures après l'accident. Le transport il a duré quelque chose comme 40 minutes. Hein. C'est en ambulance des pompiers avec une escorte de gendarmerie. On s'arrête pas au feu. Ça a été très vite. Une fois que la décision a été prise, et tant qu'il n'y avait pas un centre qui disait nous on le prend et on s'en occupe et on l'opère. Moi je suis pas médecin, mais ce qu'on m'a expliqué c'est que pour sauver un membre il faut pas excéder 6 heures. Là on était déjà à 5 heures.
Ultime recours, le CHU d'Angers s'est donc réorganisé pour opérer le petit garçon et sauver son pied menacé. Au-delà de cet accident individuel, c'est l'ensemble du système hospitalier qui interroge sur son extrême fragilité. C'est que ce qu'on constate Bernard Pénaud, d'ailleurs au président du conseil de surveillance de l'hôpital Nord de Sèvres.
Ce qui me fait crier, c'est la situation générale des hôpitaux, parce que finalement c'est un symptôme qui apparaît là. C'est partout, c'est dans les grands hôpitaux. Il y a des urgences qui sont fermées, là, des services entiers qui ne sont pas ouverts tout le temps parce qu'il n'y a pas assez de personnel et tout. Et c'est quand même, dans une société moderne comme ce beau pays qu'est la France, un enjeu extraordinaire, quoi. C'est une calamité. Quand on a eu le Covid en 2020 et qu'on a dit quoi qu'il en coûte, on n'arrête pas l'économie en France, je pense qu'on a bien agi, on a bien fait, ça s'est plutôt bien passé. On a trouvé des milliards, on se demandait d'ailleurs comment c'était possible, on a assumé. Mais là, il faut que ce soit une priorité nationale. La santé, il y a bien d'autres enjeux, mais la santé, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est la dégradation qui date pas d'il y a 5 ans, 10 ans. Hein. Et il est plus que temps de relever la barre et de dire quoi qu'il en coûte, on forme les gens, on les recrute, on les paye comme il faut, et puis on ouvre les services.
Constat sans appel, la santé publique est à court d'oxygène, et seule une politique adaptée peut lui insuffler l'air qui lui manque, et là aussi, comme pour Lucas, il y a urgence. Un reportage signé Dominique Hérault. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé lundi en fin d'après-midi suite à une tentative de vol à main armée à la boulangerie de Soudan, cette petite commune de quelques 450 habitants près de Saint-Mexant. Une trentaine de militaires étaient engagés avec l'appui d'équipes cynophiles, de l'hélicoptère de la gendarmerie de Limoges et des unités motorisées. Une enquête dirigée par la brigade de recherche de Niort est toujours en cours. Le deuxième tour des élections législatives tourne donc au duel entre la majorité présidentielle et la NUP sur les trois circonscriptions de Sévrienne. Un véritable duel très serré dans la première et a priori moins indécis sur la deuxième et troisième circonscription. Sur la troisième, nous vous proposions un débat hier soir entre Juliette Voilaise, pour la NUP et Jean-Marie Fiévé pour la majorité présidentielle. Pratiquement une heure et demie de débat sur Colline pour évoquer de nombreux sujets comme celui de la santé, de l'hôpital Nord de Sèvres, de l'âge de la retraite, des services publics, du pouvoir d'achat ou bien encore du prolongement de la RN 249. Extrait justement sur ce dernier sujet.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les élus se prennent en main et tous ensemble. Avec madame la présidente du département, on a échangé longtemps sur ces quatre voies et je la remercie parce qu'il y a une vraie écoute, une vraie envie d'aller sur cette quatre voies pour aller sur une vraie prise en compte et que le département se positionne pour la récupérer. Moi, je suis très content qu'elle le fasse parce que comme ça, nous allons pouvoir encore bouger les choses différemment. Après, c'est toujours pareil. Hein. Si le département prend la route, qui paye ? Ne faisons pas d'illusions, qui paye ? Il faudra que le ou la députée en place se batte tous les quatre matins pour pouvoir financer aussi, encore une fois.
Juliette Wallace, votre conception par rapport à cet aménagement attendu côté Bocage et Gâtine en particulier
Alors, c'est vrai que c'est un aménagement dont on entend moins parler quand on vient du Touarçais, parce que le problème du Touarçais, c'est pas tout à fait ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est en termes de transport, de changement climatique et le reste, c'est pas sur la route qu'il faut miser en termes de déplacement. Il est très important de miser, effectivement, vous parliez du train tout à l'heure, de la ligne de train de fret qui devrait redémarrer.
Non, pas devrait, elle va redémarrer, c'est pas oui. Pareil. J'en suis fier, c'est moi qui ai dépensé le dossier, c'est moi qui l'ai eu ce dossier.
Si vous l'avez raté, sachez que ce débat sera rediffusé à 12h30 tout à l'heure, à retrouver également sur notre site internet en podcast ou à lire ce mercredi dans les colonnes de nos confrères du Courrier de l'Ouest. L'élection sera sans doute beaucoup plus serrée sur la première circonscription avec un candidat de la majorité présidentielle, Bastien Marchive, qui est arrivé en tête au premier tour devant François Charron, mais avec 2 points seulement d'avance, sachant que Guillaume Chiche, le député sortant, troisième avec 17%, a indiqué qu'il voterait pour le candidat de la NUP. L'analyse du politologue Poitevin, Dominique Breillat, interrogé par Fabien Gazot.
Il a précisé que c'était sa décision personnelle, que c'était pas du tout le courant qui se prononce, le courant politique auquel il pouvait appartenir, qui se prononce. Il n'empêche que, bien évidemment, cela renforce sans doute les chances de M. Charron, mais il y a encore bien d'autres candidats qui se sont trouvés éliminés et qui, eux, vont peut-être apporter leur soutien à M. Marchive. Donc, là aussi, tout est envisageable.
Le politologue Dominique Breillat, qui voit d'ailleurs difficilement un rebond de la participation dimanche, on aura l'occasion d'y revenir. En raison des forte chaleur annoncée sur notre département comme partout en France. Les mesures de veille sont renforcées et les acteurs sont mobilisés, annonce la préfecture dans un communiqué. La préfète de Deux-Sèvres a sollicité hier les maires pour une vigilance particulière à l'endroit des personnes âgées et en situation de handicap via leur registre communal dédié. Quelques recommandations permettant de se protéger et de lutter contre les excès de chaleur sont également rappelées. Maintenir son logement frais, boire régulièrement de l'eau, se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour et utiliser si possible un ventilateur ou une climatisation. Débutés en septembre 2021, les travaux d'aménagement de la desserte nord du centre hospitalier Nord de Sèvres s'achèvent. Financés par le département des Deux-Sèvres à hauteur de 6,5 millions d'euros, cette voie départementale de 4,2 km va faciliter l'accès du centre hospitalier Nord de Sèvres au dépuytoir. L'inauguration aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 23 juin. Après un peu plus d'un an, après avoir repris SMM, Denis Papin avait convié les élus lundi matin pour une petite visite des entreprises, des ateliers. Depuis 2021, l'ancien patron de DPC à Bressuire est sorti de sa retraite pour reprendre cette entreprise Nueil-Aubraise qu'il connaissait bien, puisque c'est notamment un sous-traitant de DPC. SMM qui a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2021 est spécialisé dans la transformation de tubes métalliques pour du mobilier par exemple, ou tout type de sous-traitance industrielle. Denis Papin, au micro de Fabien Gazot.
C'est une entreprise qui transforme du tube. Voilà, on peut faire soit du mobilier, soit autre chose. Le savoir-faire, c'est de transformer du tube dans toutes ses dimensions.
Alors, avec une centaine de salariés ?
C'est ça, 110 salariés actuellement, 80 en CDI et 30 intérimaires. Donc, l'année dernière, j'avais annoncé qu'on ferait 1,4 million d'euros d'investissement dans les machines. Donc là, aujourd'hui, on a fait le laser à 700 000 qui est opérationnel. On a remplacer une cintreuse 350 000 qui est opérationnelle. Et le dernier investissement aura lieu au mois de décembre. C'est la cabine de poudrage. Donc ça se fait pas maintenant parce qu'on est en pleine période d'activité et on peut pas se permettre d'arrêter la peinture. Donc ça s'arrêtera au mois de décembre où en principe on a moins d'activité, quoi.
Des investissements qu'ont pu découvrir lundi dernier le sénateur Philippe Mouillet, la vice-présidente de l'Aglo Emmanuel Ménard, le maire de Neuilly-les-Aubiers Serge Bouju et le conseiller départemental Philippe Brémond, lesquels ont répondu donc à l'invitation de Denis Papin qui avec son adjoint Jérôme Talbot les a guidés dans une entreprise qui n'échappe pas à la flambée des prix des matières premières et des coûts de l'énergie.
Là où ces matériaux on l'a pris essentiellement sur 2021, donc le tube qu'on utilise, le tube d'acier qu'on utilise le plus, c'est diamètre 25 par 2, il a augmenté de 237% sur l'année 2021. Donc là, je pense que sur l'année, pour le moment, les échos qu'on a, c'est que ça va se stabiliser. On ne devrait pas avoir de nouvelles hausses, mais on a eu une nouvelle hausse au 1er avril de 15% malgré tout. Et là maintenant, c'est tout ce qui est énergie. Par exemple, le mégawatt de gaz, on le payait jusqu'au 31 mai 19 euros. À partir depuis le 1er juin, on le paye 95 euros. Par exemple, l'électricité multiplie par 2,2. Donc voilà, alors ça c'est effectivement des gros problèmes.
Denis Papin qui n'a donc pas manqué d'alerter les élus sur ces difficultés rencontrées par toutes les entreprises concernant les difficultés liées au recrutement de main d'œuvre. Emmanuel Ménard a indiqué que l'Aglo de B travaillait sur l'attractivité.
C'est au niveau de la commission économie, on a fait différents groupes de travail où l'un d'entre eux, cogite sur la façon non seulement de recruter mais aussi de fidéliser les personnes que nous avons dans les entreprises et de les fidéliser dans l'entreprise et sur le territoire. Donc il y a des journées d'accueil par exemple qui vont pouvoir être proposées aux entreprises pour attirer les futurs recrutés, que ce soit individuellement ou avec leur famille. Voilà, c'est par exemple une des idées qui est sur la table, mais il y en a d'autres et nous devrions, un budget avait été voté pour cela par la communauté d'Aglo et nous devrions sortir cela d'ici la fin de l'année et le proposer au chef d'entreprise.
Emmanuel Ménard, vice-présidente de l'Aglo de B en charge de l'économie. À Bressuire, l'expérimentation concernant l'ouverture du marché des saveurs chaque mercredi après-midi touche à sa fin. Le résultat en demi-teinte incite la ville de Bressuire à lancer une nouvelle réflexion autour du marché en concertation avec les commerçants. Une réouverture à partir d'octobre est envisagée, mais sous une nouvelle forme qu'il reste à imaginer. Le marché des saveurs vous accueille toujours chaque mardi et samedi matin, place du Pain, de 7 à 13 heures. La CDAC, la commission départementale d'aménagement commercial, vient de donner un avis favorable à la création d'un drive de 10 pistes de ravitaillement pour le Leclerc situé rue Turgot à Niort. À Thouars, le retour en fanfare pour la 12e édition des Arts Osés. La frustration des deux années muettes vient d'accoucher d'une affiche fournie et colorée pour la 12e édition de ce festival thouarcé. Cette résurrection aura lieu les vendredis 24 et samedi 25 juin sur l'esplanade du château. Des retrouvailles en fanfare donc pour l'équipe des 100 bénévoles du centre socioculturel et un chef d'orchestre, Sébastien Auger, un programmateur dont la tâche est facilitée par la renommée grandissante du festival. Il est au micro Colline de Dominique Hérault.
Les années payent, on va dire, le travail passé, la reconnaissance du festival ont joué et du coup on a une programmation qui est très intéressante et assez lourde et qui devrait plaire à plein de gens différents. Pour débuter le festival, on a Bastong, un artiste atypique qui fait de la musique avec des tongs, qui vient de Nantes et qui a été plébiscité par Antoine Decaune de Canal Plus et qui a vraiment un talent fou. On enchaîne avec le gros de la soirée avec la venue d'MB14, le fameux beatboxer qui a été en finale de The Voice et qui est à l'affiche au cinéma là, avec Michel Larocque, un film de Claude Zidi qui explose l'audimat partout. Et on clôturera ce vendredi par La Petite Fumée qui est un groupe incroyable qui mélange didgeridoo, dub, pour un public qui aime la fête.
À noter la mise en lumière du rappeur 3K et Kuma afin de faire découvrir un jeune talent qui monte. Au programme également des battles de breakdance et des démonstrations de sport urbain ou de combat comme le MMA, soit 11 shows intégrant des clubs thouarcés. Voyons maintenant l'affiche du samedi soir, toujours avec Sébastien Auger.
Le samedi, on enchaînera avec une présentation des jeunes artistes du conservatoire qui dansent depuis un an la danse hip-hop. On débutera la soirée par HK, le fameux artiste militant chanson française qui a cartonné pendant le Covid avec sa chanson On danse encore. Pour le Thouarsais, c'est assez sympa et je pense qu'on va toucher bien plus de gens que d'habitude. On enchaînera avec l'Entourloupe qui est la grosse tête d'affiche de ces deux jours. Deux DJ qui seront accompagnés sur scène par deux MC. On est sur de la dub, hein, sur de la musique entraînante pro festival, j'ai envie de dire. Et on clôturera la soirée par de la techno avec Zatrikaz. C'est un groupe qui va réveiller tous les Toursais, donc on pourra pas se coucher tôt le 25 juin.
Cette énorme affiche est contenue dans un budget de 70 000 euros car l'équipe du CSC a su négocier les cachets, histoire d'en faire profiter un très large public, car les tarifs vont de la gratuité pour les moins de 12 ans à des billets de 5 à 8 euros. Déjà plus de 700 personnes ont réservé une soirée sous celle du 24 ou celle du 25 juin. Il suffit de s'inscrire sur la page Facebook des Arts Osés ou bien s'adresser au centre socioculturel de Thouars. Des entrées seront également possibles sur place les soirs de concert. L'actualité sportive maintenant avec une figure du réveil bressuré qui a mis un terme à sa carrière ce week-end en remportant la Coupe des Deux-Sèvres face aux voisins du sursaut Tervé sur un score lourd de 70 à 38. Beata Bondreau a en effet conclu une très très belle carrière.
La victoire, elle couronne en fait tout mon parcours à Bressuire. Hein. Ça fait 15 ans que je joue dans le club de rêve Bressuire. Et là, donc cette année, c'était la dernière année. Et c'est vrai que toute la saison, on a pris ça au sérieux. On a essayé de se préparer au mieux. Ça nous a fait vraiment bien plaisir de pouvoir gagner, d'avoir cette coupe encore une année. C'était une saison assez particulière aussi par rapport à une de nos coéquipières hein, qui nous a quittés. Donc c'était aussi un peu en hommage pour elle.
Hein. Beata Bondreau au micro de Sylvain Schwartz lors du week-end des finales des coupes départementales à Cerisay. Hier soir se clôturait le championnat de France de pro de tennis de table pour la Romagne qui avait déjà abandonné tout espoir de titre. En déplacement à Caen, les Romagnons se sont imposés 3-1 et terminent la saison au pied du podium.